Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Rebelle et prix Nobel, Bob Dylan est devenu aujourd'hui prix Nobel de littérature. Voilà le chanteur engagé récompensé pour son œuvre poétique. Mais chez Dylan, l'écriture et la musique sont un tout indissociable. Nous verrons cela avec Cécile de Kervas-Doué. 7 candidats pour une primaire. Le premier débat télévisé a lieu ce soir. Et d'emblée, Jean-François Copé a attaqué Nicolas Sarkozy. Premiers extraits dans ce journal. Le monde de la justice en colère contre François Hollande, accusé d'avoir humilié l'institution en évoquant dans un livre de confidences des magistrats lâches et planqués. Invité de ce journal, le constitutionnaliste Dominique Rousseau, qui estime urgent de couper le cordon ombilical entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Les jurés de Stockholm ont donc créé une belle surprise aujourd'hui en décernant le Nobel de littérature à Bob Dylan, icône de la musique populaire américaine. Dylan est récompensé à 75 ans pour les textes de ses chansons. Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille, il est doué pour la rime. Voilà les termes employés par la secrétaire générale de l'Académie Nobel, Sarah Danius, pour expliquer ce choix. La preuve, Cécile de Kervas-Doué, qu'il est vain chez Dylan de dissocier le texte de la musique.
Do you think of yourself primarily as a singer or as a poet?
Lors de cette interview pour la télévision américaine, Bob Dylan est au tout début de sa carrière et déjà un journaliste lui pose cette question. Êtes-vous plutôt chanteur ou plutôt poète? L'intéressé répond ironique. Non, voyez, moi je me considère plutôt comme danseur. Preuve déjà que la question l'ennuie. Parce qu'il la trouve absurde, expliquera-t-il plus tard. Poser cette question, c'est méconnaître ce qu'est le folk. Un genre qui remonte très très loin dans le temps puisqu'il désigne la musique populaire de tradition orale où il n'y a pas de différence entre spectateur et musicien. C'est une façon de raconter des histoires par le biais de la musique tout simplement. Et tout le monde peut le faire sans que la musique n'ait jamais été codifiée ni même définie. Il n'empêche que le terme folk, qui remonterait au 19e siècle, a pris une toute autre dimension au 20e siècle aux États-Unis, où ces chansons, qui permettent de chanter le quotidien, deviennent plus engagées. Avec la crise de 29 et ensuite le McCarthyisme, des chanteurs comme Woody Guthrie ou Pete Seeger se sont emparés de ce style pour porter des messages politiques et sociaux. Mais c'est Bob Dylan qui va finalement incarner ce renouveau de la folk music dans les années 60 en faisant la synthèse d'influences folk américaines mais aussi anglaises, irlandaises, écossaises avec le blues, le jazz, le rock. Doué d'une immense créativité, Bob Dylan ne semble pas vouloir cesser de saisir l'esprit musical et poétique de chaque époque qu'il traverse.
Crickets are chirping, the water is high, there's a soft cotton dress on the line.
The Man in the Long Black Coat, l'une des plus belles chansons de Bob Dylan sur l'album Oh Mercy, paru en 1989. Parmi les multiples réactions, il y a celle de Barack Obama avec ce tweet. Félicitations à l'un de mes poètes préférés, Bob Dylan, pour ce Nobel tout à fait mérité, avec en prime un lien vers un florilège des chansons de Dylan. L'événement politique ce soir, c'est bien sûr le premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre. 7 candidats sur le plateau, de gauche à droite, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et François Fillon. Avec une question importante en guise de préalable, êtes-vous prêt à soutenir le vainqueur de cette primaire pour la présidentielle de l'an prochain?
Oui, évidemment.
Oui.
Oui, évidemment.
Oui, sans réserve.
Nathalie Kosciusko-Morizet.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Voilà un oui unanime des 7 candidats, mais cette unanimité ne résiste pas aux différences politiques des 7 postulants. Illustration avec cette autre question, pourquoi voulez-vous être président de la République? Écoutez dans l'ordre les réponses de Jean-François Copé, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon.
Il y a 10 ans, en 2007, j'avais comme des millions de Français espéré en la rupture que proposait Nicolas Sarkozy pour notre pays, avec vous tous qui avez été ses ministres et nous qui étions dans la majorité, qui soutenions autant que nous pouvions et qui vous alertions aussi. Cette rupture, malheureusement, on l'a pas faite. On a perdu en 2012, avec des Français qui nous ont dit « Vous avez échoué parce que vous avez reculé, parce que vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été élu. »
Depuis 2 ans, je suis allé à la rencontre de mes compatriotes. Et j'ai mieux compris leurs inquiétudes, leur exaspération devant la façon dont la France est aujourd'hui gouvernée. Et ce soir, je suis prêt à apporter des réponses à la fois concrètes et, je l'espère, efficaces.
On a gouverné ensemble pendant 5 ans et on a eu à faire face à la crise la plus violente que le monde ait jamais connue depuis 1929. Imaginez ce qu'eût été la situation de la France et de l'Europe avec l'équipe actuelle au pouvoir et le président actuel au pouvoir. J'en tire la conclusion que l'alternance doit être forte, énergique, immédiate, concrète.
Aux Français, j'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite. Pour réagir, moi, je ne propose pas des réformes. Je ne propose pas une alternance. Je ne propose pas un retour en arrière. Je propose une transformation économique et sociale profonde.
Copé, Juppé, Sarkozy et Fillon, un extrait du débat monté par Nathalie Lopez. Nous y reviendrons largement demain matin avec Stéphane Robert du service politique de France Culture. Retrouvez d'ores et déjà sur notre site franceculture.fr un dossier sur les grandes priorités de ces candidats à la primaire. C'est une polémique dont François Hollande se serait bien passé. Le monde de la justice est en colère. Après les propos présidentiels rapportés dans le livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davé, un président ne devrait pas dire ça, François Hollande compare la justice à une institution de lâcheté avec des procureurs et des hauts magistrats qui se planqueraient et qui joueraient les vertueux. Propos humiliants pour Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin, premier président et procureur général de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. Un sentiment d'humiliation largement partagé par tous les syndicats de magistrats. Invité de ce journal, le constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Rousseau, les magistrats ont-ils raison de dénoncer une nouvelle humiliation après ces propos de François Hollande ?
Écoutez, si les propos prêtés à François Hollande ont effectivement été tenus, il y a effectivement un problème institutionnel, comme le relève le premier président de la Cour de cassation, problème institutionnel tout simplement parce que la Constitution fait du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc sa responsabilité constitutionnelle est de défendre l'autorité judiciaire. Or, par les propos qu'il aurait tenus, s'il les a bien tenus, évidemment, il met en cause de manière très injuste l'indépendance et la qualité du travail rendu par les magistrats.
Le président n'a pas à émettre un quelconque avis sur la justice et les magistrats.
Si le président de la République a des doutes sur la qualité de l'autorité judiciaire, eh bien, il y a deux instances qui peuvent intervenir, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas au président de la République, en tant que chef de l'exécutif, de porter un jugement sur les éventuels dysfonctionnements ou mauvaises qualités de la justice. Il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui est là pour, le cas échéant, observer, examiner et évaluer le travail fait par l'autorité judiciaire.
Mais le président de la République est un politique, est un élu, donc il a peut-être le droit à un moment ou à un autre d'émettre un avis sur la justice.
À condition que cet avis soit justifié. Or, en tant qu'ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, je peux témoigner que les magistrats exercent avec une conscience professionnelle certainement très attentive et très soigneuse leur travail. Les magistrats ont parfaitement conscience d'avoir entre leurs mains la vie de leurs concitoyens, la vie privée, la vie familiale, la vie professionnelle. Toute la misère du monde arrive devant les tribunaux. Et les magistrats sont là pour prendre en charge cette misère du monde. Les députés et les élus, ils votent des lois à l'Assemblée nationale, au Sénat, tranquillement. Mais qui a appliqué les lois au quotidien et qui a affaire à ceux qui subissent l'application des lois? Ce sont les magistrats, ce sont eux qui sont en première loge. Et pour avoir été pendant 4 ans au Conseil supérieur de la magistrature et avoir vu donc les magistrats fonctionner sur l'ensemble du territoire national, je peux vous garantir que l'immense majorité des magistrats exercent avec conscience leur métier d'application de la loi, car après tout, ils appliquent la loi votée par les politiques.
L'indépendance de la justice est un peu la pierre angulaire du système démocratique qui est le nôtre.
Dans un état de droit, il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est évidemment le suffrage universel, le peuple qui s'exprime par le vote. Et le deuxième pilier, c'est la justice. Et si vous mettez en cause l'un des 2 piliers, évidemment, la démocratie est bancale. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe en Slovaquie. Dans tous ces pays-là, eh bien, on tente de réduire et d'affaiblir le pilier justice. On remet en cause l'indépendance des juges, on remet en cause le tribunal constitutionnel. Il serait quand même surprenant que la France suive ce modèle et que finalement les 2 piliers de l'état de droit, c'est-à-dire le suffrage universel qui deviendrait fragile par le nombre d'abstentions et l'autorité judiciaire qui deviendrait fragilisée par une mise en cause injuste de son travail.
Et donc le président doit garantir l'indépendance de la justice par ses actes et ses propos finalement.
Mais écoutez, comme il ne le fait pas, ça pose le problème de savoir s'il ne faudrait pas réviser la Constitution pour enlever au président de la République ce rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de confier cette mission constitutionnelle à une autorité constitutionnelle, le Conseil supérieur de la justice. Puisqu'il semble que les présidents, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ne puissent exercer leur fonction de protection de l'indépendance de l'autorité judiciaire, eh bien peut-être faut-il confier cette mission à une autre autorité qui serait un Conseil supérieur de la justice. Je pense que la justice, si elle veut être indépendante, ne doit pas être liée au pouvoir politique. Or, aujourd'hui, le fait qu'il y ait un ministère de la justice, le fait que le chef de l'exécutif soit le garant de l'indépendance de la justice, crée et peut créer évidemment un trouble, une hésitation, un doute sur la réalité de l'indépendance de la justice. Il faut donc enfin, comme selon la formule consacrée, couper le cordon ombilical entre la justice et le politique, et par conséquent créer une autorité constitutionnelle qui serait, à la place du président de la République et du ministre de la Justice, chargé de garantir et de protéger l'indépendance de la justice.
Dominique Rousseau, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Selon toute vraisemblance, il y aura bientôt un nouveau référendum sur l'indépendance en Écosse. En 2014, les Écossais s'étaient déjà prononcés sur le sujet. Ils avaient choisi de rester au sein du Royaume-Uni à 55%. Mais le Brexit a changé la donne. À l'occasion du congrès annuel du SNP, le parti indépendantiste au pouvoir, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a remis le sujet sur la table. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
L'Écosse n'a pas choisi d'être dans cette situation, c'est vous qui nous y avez plongé. L'attaque est frontale. À la tribune, Nicola Sturgeon demande le respect des Écossais qui, à 62%, ont voté contre le Brexit avant de dénoncer la xénophobie des conservateurs qui, dit-elle, ont adopté tous les codes de l'extrême droite, l'intolérance, le repli sur soi et la bière. Les élus écossais, dit-elle, s'opposeront à une sortie du marché unique et si ça ne suffit pas, l'Écosse n'hésitera pas à se séparer du Royaume-Uni.
Je suis déterminée à donner la possibilité à l'Écosse de reconsidérer la question de l'indépendance et à le faire avant que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne si c'est nécessaire pour protéger les intérêts de notre pays. Je peux vous confirmer que le projet de loi pour un référendum sur l'indépendance sera publié pour consultation la semaine prochaine.
Car dans ce bras de fer avec Westminster, les Écossais doivent aller vite, poser des jalons avant le début des négociations officielles pour obtenir un Brexit à la carte, un peu à l'image du Groenland qui, en 1985, était sorti de l'Union européenne alors que le Danemark, membre du même royaume, continuait d'en faire partie. Alors face à la ligne politique de Londres qui clame l'indivisibilité du Royaume-Uni, Nicola Sturgeon tente de discréditer les ministres britanniques, Boris Johnson, David Davis, Liam Fox, dit-elle, trois hommes dans un bateau mais qui n'ont pas les rames pour avancer.
Antoine Gignot, merci. C'était le plus ancien monarque régnant au monde. Le roi de Thaïlande est mort aujourd'hui après un règne de 70 ans. C'est un choc pour le royaume, même si la santé déclinante de Bhumipol Adulyadej avait un peu préparé les esprits. Pour les Thaïlandais, le roi Bhumipol était comme un demi-dieu qui a modernisé son pays. Écoutez l'analyse de Sophie Boisseau-Durocher. Elle est chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Le roi, c'est d'abord un père, et un père, ça cherche à rassurer. Rassurer les Thaïlandais dans la tâche de modernisation de la société qui a été la sienne depuis son arrivée sur le trône. Et puis, c'est également un monarque qui a tenté d'encadrer cette modernisation, et on constate qu'effectivement, sous son règne, la Thaïlande a complètement changé de visage. En tout cas, il a réellement accompagné les changements vers le développement à la fois économique et politique. Il est arrivé sur le trône à la suite suite, d'une part, de l'abdication de son oncle en 1934 et puis de l'intronisation de son frère qui a été tué dans un accident en 1946. Donc il n'était d'une certaine façon pas vraiment préparé à ce poste. Il suivait des études d'ingénieur à Lausanne et donc il était tout à fait occidentalisé puisqu'il habitait en Suisse depuis l'âge de 4 ans. Donc c'est un monarque qui a vécu, dont les premières références mentales sont des références, je dirais, d'un pays industriel, stable, moderne, et probablement a-t-il cherché à faire partager son expérience à l'ensemble de ses sujets une fois qu'il a été intronisé en 1950. Le débat est-ce que le futur roi aura le prestige, l'aura, le tempérament pour accompagner le pays comme l'a fait son père et éviter les débordements.
Voilà pour ces propos recueillis par Julien Moc. Un mot de la météo demain, toujours dominé par cet épisode méditerranéen sur le sud-est. L'Hérault a été placé en vigilance rouge, pluie, inondation. 4 autres départements sont en vigilance orange, le Gard, l'Aude, l'Aveyron et les Bouches-du-Rhône. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec M. Le Chili.